Alors, il a été demandé un grand débat national. Notre gouvernement s'est d'ailleurs chargé de nous fournir un certain nombre de documents pour nous aider. Et donc, CFM a décidé de collaborer à ce grand débat en invitant des gens autour de notre table. Et parmi ces gens, alors certains représentent, d'autres sont eux-mêmes. Francis Sabrier, qui est le porte-parole de la Confédération Paysanne. Stéphanie Barthélémy, qui représente elle-même. Guillaume Albe, qui appartient au collectif citoyen du Grand Rodez. Et Robert Mascarel, qui est gilet jaune et qui représente les gilets jaunes, car il y a eu un vote. Et donc, les thèmes qu'a ordonné CFM, puisqu'il y aura 4 émissions, la première étant en Rodez et la première est portant sur la fiscalité et les dépenses publiques, nous dit le document gouvernemental. Alors le document gouvernemental, je vais quand même vous en faire une rapide synthèse, puisque vous ne voulez supprimer aucun, il revient à probablement aboutir à la synthèse que j'en ai faite, puisque vous ne voulez supprimer aucun service ni aucune prestation et refuser d'augmenter les prélèvements, vous voyez bien qu'on ne peut rien changer. Alors donc on va essayer de montrer qu'on peut changer. La première question déjà sur la fiscalité me semble devoir être comment paie-t-on sur la fiscalité et les prélèvements. Et les prélèvements, chacun pense à ça. Donc moi la première question que je vous suggérerais de débattre, c'est comment doit-on payer, de façon directement proportionnelle ou de façon progressive.
Écoute, qui démarre?
Francis Sabrier pour la Confédération Paysanne.
Moi, je pense que les deux peuvent être liés de proportionnellement et progressivement. C'est-à-dire que il faut que tout le monde contribue suivant ses moyens et qu'ensuite, au niveau de la société, chacun bénéficie selon ses besoins. C'est à mon avis ça le point de départ pour nous. Voilà. Donc il faut un partage des richesses et ensuite mettre en place un système de prélèvement qui soit proportionnel aux revenus, à tous les revenus, pas que ceux du travail. Et on est bien d'accord là-dessus.
Alors ça c'est l'assiette, on va en parler effectivement derrière. Qui doit payer et sur quoi on doit payer. Mais je reviens sur mon... Je réalise que j'ai oublié de me présenter, Claude Devesin, pour CFM. D'habitude, je suis au milieu de la table, mais là j'ai une folle envie bien sûr d'être autour. Donc la question sur proportionnel progressif, on va concrétiser. L'impôt sur le revenu est progressif. Il y aurait à dire d'ailleurs sur cette progressivité. Et puis la CSG et le RDS sont proportionnels. Vous gagnez des millions, vous gagnez 500 euros, vous paierez le même taux de CSG. Robert Mascarel.
Voilà. Donc en ce qui nous concerne, puisque je parle au nom des gilets jaunes de Rodez pour cette circonstance uniquement, nous considérons que la progressivité de l'impôt doit être privilégiée. Et non seulement elle doit être privilégiée, mais elle doit être améliorée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'impôt est assis sur 5 tranches qui ont la particularité, dont la dernière s'arrête à 45%, et qui ont l'inconvénient de faire qu'il n'est pas suffisamment progressif, et surtout que les plus impactés par l'impôt sur le revenu progressif, ce sont les, on va dire, les couches moyennes qui en sont les principaux payeurs. Les couches les plus aisées, étant donné que la dernière tranche est arrêtée à 45%, eh bien, ils ne payent que très peu par rapport à l'énormité. Pour les,
et on doit
les
réaliser que quand tranches, on dit la dernière tranche à 45%, ça ne signifie pas que l'impôt total
c'est une tranche
soit
marginale
de 45%.
C'est une tranche marginale, effectivement. De toute façon, tout l'impôt progressif est fondé sur ce principe, que ce sont toujours des tranches marginales. C'est-à-dire qu'on paye sur les 10 premiers pourcents, et ensuite, deuxième tranche, troisième tranche. Et l'impôt qui serait le mieux progressif, ce serait de multiplier les tranches par rapport à celles qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il n'y en ait que 5, comme ça se pratiquait avant 1980, qu'il n'y en ait 14. Et que les tranches supérieures ne s'arrêtent pas à 45%. Mais, comme ce fut le cas longtemps, et notamment aux États-Unis, une tranche à 90% pour des revenus supérieurs, par exemple, à 400 000 euros par an, en tranche marginale, j'entends bien, évidemment, pas 90% des 400 000 euros, eh bien que tout ce qui est en tranche marginale supérieure à 400 000 euros soit frappé d'un impôt à 90%. Ça a été, dans les années d'avant-guerre, le taux d'imposition aux États-Unis, pays évidemment communiste comme chacun le sait, et aux États-Unis, jusqu'en 1970, le taux d'imposition de la tranche supérieure était de 70%. Et ça fonctionnait bien.
Oui, oui.
Ça
Stéphanie Barthélémy, parce que je vous vois vous agiter.
Ah oui, je m'agite un peu parce que je suis en partie d'accord avec vous, monsieur. Effectivement, je pense qu'il faut multiplier les tranches jusqu'à 45% pour un impôt plus juste et plus en phase avec la réalité. Aujourd'hui, je pense qu'il est tout à fait anormal de travailler plus de 6 mois de l'année pour l'État. On doit laisser la possibilité aux gens de travailler aussi pour eux. Et je pense que pédagogiquement, un impôt à 70 ou à 90%, c'est, j'ai bientôt fini Guillaume, c'est complètement anti-productif. Je pense aussi qu'on a un problème quant à l'impôt. Vous dites, les tranches moyennes sont impactées. Oui, elles sont doublement impactées parce que il y a aussi un problème de trésorerie dans les ménages français. Aujourd'hui, il y a plein de possibilités de défiscaliser, d'accord ? Sauf que pour défiscaliser, il faut aussi avoir la trésorerie. Et les ménages moyens sont toujours obligés de payer l'impôt plein pot, ne peuvent pas défiscaliser, ne peuvent pas investir dans l'économie française et investir dans les entreprises, dans les possibilités fiscales qui sont disponibles, parce qu'ils sont toujours en train de travailler pour joindre les deux bouts tous les mois. Donc ça, c'est un réel problème. Donc non, moi, de 70-90%, je vous dis, on va faire fuir tous les gens qui sont en capacité.
Mais ils sont déjà partis, ils ne reviennent pas.
Mais
ils ne sont pas en leur mettant du sel sur la queue et en leur disant qu'ils vont revenir.
Il faut être incitatif. Ces gens-là peuvent investir dans les entreprises et pas en bourse. On reviendra peut-être sur l'ISF tout à l'heure. Et à partir du moment où ils investissent un euro dans une entreprise, ça doit être défiscalisé. Pour moi, ce serait une proposition d'entrée de jeu. Et là, on pourrait réellement investir de l'argent frais, de la trésorerie dans les entreprises françaises et espérer créer de la richesse et de l'emploi à redistribuer. Fini Guillaume.
Oui, merci. Mais moi aussi, je réagissais au propos de Robert Mascarel, et je voulais compléter que l'argument de l'impôt, vous donniez l'exemple américain, de prélever énormément de richesse sur les plus grandes fortunes était un argument libéral. On disait vous voulez faire beaucoup d'argent, on va vous en prendre beaucoup, comme ça vous en ferez encore plus. C'était pas un argument communiste, c'était un argument libéral pour produire encore plus de richesse. Pour compléter encore un peu sur la question des tranches.
C'est un peu ce que font les vignerons avec la vigne.
Peut-être. Je sais pas, je connais pas beaucoup la vigne quoi.
Et ça est très court.
D'accord. Ah bah oui, voilà bon exemple. Et sur la question des tranches, il y a aussi un sentiment d'injustice. C'est-à-dire que, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que ça, l'impôt repose. On revient à un système d'impôt un peu d'ancien régime où la plupart des impôts reposent sur les classes populaires et les classes moyennes. Quand on est dans la tranche entre 1000 et 2200 euros de revenus bruts par mois, on est imposé à 45%. Les ultra-riches, c'est-à-dire qui gagnent plus de 14 000 euros par mois, eux, sont imposés à 35%. Et Liliane Bettencourt, par exemple, était imposée à 14%. Donc, il y a ce sentiment d'injustice. Il y a un sentiment aussi de que les riches sont protégés. Et voilà, c'est un peu une rupture du pacte social. Parce que ça repose, je le redis, sur les plus modestes.
Avant d'aller sur l'impôt sur la fortune, parce que je vous sens tous chaud bouillant pour aller sur l'impôt sur la fortune, mais je voudrais que vous régliez son compte ou pas à la CSG qui, je le rappelle, est un prélèvement proportionnel et pas progressif. Je vous ai pas entendu là-dessus. Stéphanie Barthélémy.
J'étais en train de réfléchir, Claude Vezin. Je pense que la proportionnalité sur la CSG n'est peut-être pas, je vais me faire regarder dessus, n'est pas forcément une mauvaise chose.
Son absence de proportionnalité.
Oui.
De progressivité.
Ou de progressivité. Après, Vous savez, ce qui est important, c'est plus que l'impôt en lui-même, c'est de savoir exactement ce que finance cet impôt et dans quelle mesure tout le monde en bénéficie. Il y a un problème de transparence avec les impôts en France. Je crois qu'on accepte les mesures fiscales lorsqu'elles sont transparentes et lorsqu'on peut avoir accès à l'intégralité du cheminement que 1 euro qui vous est prélevé par l'État fait de votre poche jusqu'au système, jusqu'au fonctionnement de l'État. C'est ça. Les gens ont besoin de savoir ça. Et ça réglerait, à mon avis, bien des problèmes.
Oui, mais ça, c'est effectivement l'obsession de ceux qui ont nationalement organisé le grand débat, ouais. De faire de la pédagogie.
Non, la transparence, c'est différent, ouais. Claude. C'est très différent. Ouais. Pédagogie, c'est une chose. Avoir accès, que chaque citoyen dans ce pays ait accès aux comptes de l'État de manière simple, lisible et sans barrière, ni éducatif, ni d'accès parce que c'est compliqué... changerait beaucoup les choses.
Francis Sabrier, parce que tout à l'heure, sur proportionnel et progressif...
Mais je voudrais un peu sortir de là, parce qu'en fait, on peut discuter pendant longtemps. Il est certain que... Je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que, comme l'a rappelé Guillaume, 35%. Revenus les plus aisés sont taxés à 35% et voilà, et donc et les plus modestes à 50% voire plus, donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais avant la fiscalité, il y a le revenu. Et on a des écarts de salaire très importants. L'échelle des salaires est beaucoup trop écartée. Et donc, naturellement, on est toujours au niveau dans notre République en train d'essayer de rectifier les inégalités de point de départ.
Ah ben donc, avec la suppression de charges sur les bas salaires, ouais. Ils vont être uniformisés les salaires.
Bon, moi, ce que je veux prendre un exemple concret, par exemple, parce que au niveau de l'agriculture, il y a des producteurs de lait qui sont dans des situations très difficiles de revenus, et il y a un gros groupe, une multinationale qui a une antenne ici à Rodez, qui s'appelle Lactalis, qui a fait des profits énormes et qui fait des profits énormes, et donc là on voit bien quelque chose qui va pas, parce que il y a des évasions fiscales. Lactalis ne publie pas ses comptes. Il y a eu pourtant la loi Sapin 2, mais ça ne fonctionne pas. Et il ne publie toujours pas ses comptes, ou du moins juste une partie. Et la Confédération paysanne au niveau national a mené une enquête. Et entre 2015 et 2016, c'est-à-dire uniquement en une année, Lactalis a fait une évasion fiscale de 2 milliards d'euros. Donc, alors, il y a tout un montage de sociétés écrans. Ça passe en Belgique, au Luxembourg, etc. Et ces 2 milliards ont naturellement échappé aux paysans pour le revenu et échappé au niveau de l'impôt pour la France. Bon, et cette situation, il faut absolument la régler, mais personne s'en occupe. Donc la Confédération paysanne mène une enquête, c'est quand même pas elle à le faire, elle le fait, elle a mené une enquête, elle vient de saisir le parquet national financier là-dessus pour que ça change, parce que entre 2015 et 2016, il y avait une crise laitière encore plus forte qu'aujourd'hui, les paysans étaient payés moins de 30 centimes le litre de lait, et pendant ce temps-là, Lactalis faisait 2 milliards de bénéfices qu'il planquait à l'extérieur. Voilà, c'est ça qu'il faut. Il faut que ça cesse. Et c'est les politiques qui ont les moyens de faire cesser ça.
Robert Mascarel.
Oui, je voudrais rebondir. Répondrai sur la CSG. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Stéphanie.
C'est ça.
Quand vous avez fait quelques réserves sur la proposition des 14 tranches, dont la dernière serait éventuellement à 90% pour les revenus au-dessus de 400 000 euros par an. Et vous avez dit, ça va faire fuir les personnes concernées.
Oui.
Dans l'état actuel des choses, oui. Mais je vais encore faire des États-Unis mon modèle. Décidément, je ne vais pas être reconnu par mes amis. Il se trouve que les États-Unis, aujourd'hui même là, ils ont un système qu'ils appellent, alors je ne vais pas vous traduire le sigle, mais qu'ils appellent le FATCA.
Je suis pas sûr que les États-Unis d'aujourd'hui soient un modèle.
C'est un impôt dit de la nationalité qui fait que tout Américain, où qu'il vive dans le monde,
a... Là, je souhaiterais, parce que c'est effectivement qui doit payer et sur quoi, c'est effectivement une autre partie de...
Monsieur Devezin, si vous permettez, c'est toujours l'argument qu'on nous avance. On nous avance en gros deux ou trois arguments.
Non, mais c'est pas un argument, on va en parler, mais dans 10 minutes.
Ah, mais c'est parce que Madame Stéphanie en a parlé, donc je...
Non, non, mais le fait que les nationaux résidant à l'étranger aient à payer, je pense que c'est une bonne question. Qu'on va aborder, parce que c'est là que vous vouliez en venir.
Non, c'est parce que comme
qu'on va aborder soulevé, dans 10 minutes.
Je
voudrais avoir votre, vous avez dit la CSG, je vais vous répondre, alors allez-y, répondez-moi.
Oui, sur la CSG, je crois que je vous ai répondu dès la première question. Ce n'est pas un impôt progressif. À ce titre, donc, il n'a pas lieu d'être à nos yeux. Nous considérons qu'il n'y a que deux impôts, enfin trois, parce qu'il y a l'impôt sur les sociétés, hein, puisqu'on a, il y a l'impôt sur les revenus des particuliers, il y a l'impôt sur les sociétés pour les entreprises, et on va dire l'impôt sur la consommation, la TVA. La CSG, c'est une création récente, je crois que c'est Rocard qui l'a inventé.
La TVA aussi, c'est une création.
Mais tous les impôts, l'impôt sur le revenu aussi.
L'impôt le plus injuste, la TVA, qui est parfaitement injuste.
Oui, mais tous les impôts proportionnels sont injustes. Tous. Et la CSG, en plus, c'est aujourd'hui l'impôt pratiquement qui rapporte le plus. Il rapporte plus que l'impôt sur le revenu. Donc ça veut dire qu'il y a une démission de nos dirigeants, et pas des derniers, pas de Macron seulement, des prédécesseurs, devant l'impôt sur le revenu, devant l'impôt, oui, une démission par rapport à l'impôt sur le revenu, et où on axe tout sur l'impôt proportionnel. Vous voyez ce que je veux dire?
Si j'ai bien compris, ce qui séduit les tenants de la CSG, de l'impôt proportionnel, c'est qu'ils l'appliquent, disent-ils, à tous les revenus et à tout le monde. Alors, oui. Ça nous introduit déjà de savoir sur quel revenu on doit payer. Qu'est-ce que c'est que le revenu d'une personne physique? Alors, c'est le salaire, ça, bon, tout le monde le sait. Peut-être les droits d'auteur. Il semble que les dividendes soient traités différemment. Est-ce que c'est normal? Les plus-values, et a fortiori sur les œuvres d'art, sont totalement exonérés et pas pris en compte. Alors, quel est votre point de vue sur qu'est-ce qu'un revenu pour une personne physique?
Il y a aussi le patrimoine.
Ouais.
Justement, un impôt sur le patrimoine permet une meilleure égalité, parce que le patrimoine, c'est là où il y a de l'accumulation de richesses.
Ça dépend, Guillaume, si vous avez un T2 à Paris un T2 à Rodez, vous n'avez pas même patrimoine.
La question de l'impôt, c'est toujours, on essaie de se mettre toujours à égalité. C'est-à-dire, celui qui a du mal à finir les fins de mois, qui paye un impôt, se trouve solidaire avec le rancher qui essaie de planquer son or en Suisse. Mais c'est pas du tout les mêmes problèmes.
Non, c'est pas mon propos.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'a pas identifié à ça, quoi. Et c'est encore une fois les classes moyennes qui
Est-ce que le patrimoine rapporte de l'argent ou pas à quelqu'un? Les questions, elles sont pas compliquées.
Il y a une accumulation de patrimoine parmi les plus riches. Et c'est une façon aussi
de
l'argent.
On va venir à l'impôt sur la fortune, mais sur les revenus, parce que actuellement, en impôt sur le revenu, ils sont pas traités tous de la même manière. Non. Alors, qu'est-ce qu'un revenu qui devrait être traité par l'impôt sur le revenu? Pour vous, quels sont les revenus qui doivent compter? Est-ce que les plus-values? Est-ce que les dividendes? Est-ce que les droits d'auteur? Est-ce que ce sont des revenus au même titre que le salaire?
Il me semble que tous les revenus devraient être regroupés et taxés.
Voilà.
Que ce soit le revenu du travail ou de placement financier ou de capital ou je ne sais pas. Donc, c'est mon point de vue. Bon, après,
je vais vous donner une définition qui m'appartient peut-être, mais qui est probablement simpliste. Mais tout revenu particulier, je dis bien particulier, c'est-à-dire qui n'est pas un revenu de personne morale, tout revenu particulier doit entrer dans l'assiette du calcul de l'impôt sur le revenu.
Moi, j'ai un
bémol. Pourquoi on va se compliquer l'existence? Tous les revenus, je dis bien particuliers, c'est-à-dire qui entrent dans le fonctionnement de la famille, de la consommation d'une famille. Ce sont des revenus particuliers, ça entre dans l'impôt sur le revenu, tout simplement. Et pourquoi on fait toutes ces
distinctions?
J'ai deux bémols. J'ai le premier bémol qui m'a toujours chagriné, mais plus que chagriné, révolté, c'est l'impôt sur la succession. Vos parents gagnent de l'argent, payent des impôts, et lorsqu'ils meurent, ils vous transmettent un patrimoine, des biens, de quelque valeur qu'il soit, et vous devez repayer un impôt dessus. Bah oui, moi ça me choque. Je suis désolé, ça me choque.
Je vois ça, mais il est pas considérable l'impôt quand, enfin, sauf si l'héritage est considérable.
Et non, ça dépend aussi. Et c'est pas juste. Pour moi, c'est un impôt qui est fondamentalement injuste. Deuxième impôt où pour moi c'est injuste parce qu'il y a déjà eu impôt sur ce patrimoine.
Non, mais j'ai dit que vous avez raison pour partie.
Alors après, on peut rentrer dans les détails affinés. Et le deuxième bémol que j'ai, c'est sur le revenu des PME PMI. Lorsqu'un chef d'entreprise paye déjà l'impôt sur la société à hauteur de 33%, si ma mémoire est bonne,
jadis il avait l'avoir fiscal.
Voilà, je devrais de savoir parce que c'est moi qui m'occupe de la gestion, mais le chiffre m'échappe, mais je crois que c'est 33. Qui réintroduit dans son revenu puisqu'il a des bénéfices, il va repayer un impôt dessus. Et croyez-moi, c'est pas petit. Je me dis qu'à un moment, il faut arrêter aussi, il faut laisser la possibilité d'avoir un peu d'oxygène financier. Alors peut-être avec des garde-fous, j'en suis d'accord. Ah, je vous parle pas des revenus du 440 ou des gros dividendes. Il y aura peut-être des seuils aussi à avoir pour permettre aux gens de pouvoir réinvestir d'argent dans la consommation également.
Ah, si je peux être, mais c'est pour ça que dès lors qu'on peut tracer ce qui va à la personne physique, qui elle va payer l'impôt. Moi, je n'ai jamais compris qu'il y ait un impôt sur les sociétés. Dès lors qu'on peut tracer la personne physique qui recueille le profit, hein, bien entendu, et qui, elle, paye l'impôt sur le revenu, on voit pas pourquoi on fait payer la production. Mais ça, c'est
Je voudrais exprimer mon étonnement de Stéphanie, devant les propos de Stéphanie à propos de l'impôt sur les successions. Vous êtes, et ce n'est pas, je ne vais pas vous en faire grief, vous êtes libéral d'économie.
Moyennement libéral. Je suis pas ultra libéral, loin de là.
Normalement, les libéraux mettent en avant le mérite.
Ouais. Je dis que j'étais pas ultra libéral.
Et donc, je pose la question suivante. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais d'accord sur l'impôt sur les successions jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire les petites et moyennes successions. Là, je n'ai aucun problème à considérer qu'effectivement la transmission du bien soit faite dans les familles jusqu'à un certain niveau. Mais au-delà d'un niveau,
vous le fixez où, décent, ce niveau?
Eh bien, je considère que je tiendrai là un raisonnement libéral, que il n'y a aucune raison que des gens, simplement par héritage, puissent du jour au lendemain, par succession, devenir immensément riche. Où est leur mérite?
Mais pourquoi? C'est du privé, c'est du domaine privé et familial.
De Lagardère, du fils Bouygues, du fils...
Mais l'État n'a pas à intervenir dans les affaires de famille. Moi, c'est quelque chose, je pense, qui est juste pas possible. À partir du moment où il y a déjà eu...
C'est la solidarité.
À partir du moment où il y a déjà eu un
impôt... On pourrait dire qu'il y a une famille qui possède finalement, par héritage, qui pourrait posséder la moitié du pays. Et on prendrait rien parce qu'on dirait que ce serait une propriété privée.
À un moment donné. Non, il faut très bien que c'est un exemple qui n'est pas réaliste.
Par l'absurde, je
rassure, mais. Alors, mettez un seuil si vous voulez, je sais pas,
voilà,
mais
il faut mettre
on
un
a
seuil.
Tous un seuil psychologique, mais ça, je le conçois tout à fait. Mais, je pense que ce serait intéressant de connaître votre seuil à chacun. C'est un seuil psychologique.
Mais ça se fixe démocratiquement avec les lois, ça.
Exactement. Et peut-être une consultation populaire.
Exactement.
J'ai peur qu'on se perde au bout d'un moment à force dans la jungle des impôts, des seuils, etc. Il y a un point important. C'est le revenu, ce qui reste pour vivre une fois qu'on a payé nos impôts. C'est la fin du mois. Et ça, c'est quelque chose de...
Parce qu'on peut
être taxé de tous les côtés, on peut payer beaucoup d'impôts, etc. Et puis, à la fin du mois, avoir toujours les poches pleines, quoi. Donc, voilà. Mais moi, ce qui m'importe, c'est ce qui reste. Et aujourd'hui, il y a des gens, il leur reste rien. Ils se font plumer complètement. Voilà. Et c'est ça qu'il faut change. Alors, quand on est face à des énarques, au bout d'un moment, à force qu'ils nous répondent, on comprend plus la question qu'on leur a posée seulement, et on est perdu. Mais,
Leur salaire est plafonné à 15 000 euros. Plus les ménages.
Pardon?
Je dis leur salaire est plafonné à 15 000 euros. Plus les ménages.
Donc, aujourd'hui, moi, je suis étonné qu'il faille un grand débat, par exemple, pour mettre un minima sur les retraites qui sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est un truc qui me paraît, c'est complètement dingue ce truc-là, quoi. Il y a besoin d'un grand débat national pour ça.
Ça occupe,
alors qu'il y a un député qui a pas si longtemps que ça a proposé un minimum de 1 000 euros pour tout le monde. Et c'est 1000 euros, hein, c'est pas énorme. Un minimum de 1000 euros pour tout le monde. Et ça a été rejeté d'un revers de main par les députés.
C'est 1000 euros, c'est 1000 euros selon vous. Ça doit être des aides sociales, des salaires. Qu'est-ce que c'est?
Ben, quand c'est une retraite, c'est pas des aides sociales, c'est une retraite. Voilà, on met un minimum retraite. Alors moi, j'estime même que 1000 euros, c'est pas assez. Mais bon, aujourd'hui, vous avez des retraites qui sont en deçà du seuil de pauvreté qui est fixé à 980 euros, je crois.
La veuve d'un exploitant agricole.
Oui, alors pareil.
Moi, j'en ai vu passer.
Oui, bien sûr. Alors, il y a des femmes d'agriculteurs qui sont à 500 euros.
400, 500 par mois. Comment voulez-vous vivre avec ça?
Il n'y a pas que ça. Mais on retrouve... Voilà, donc ça, il n'y a pas besoin d'un... Enfin, moi, je trouve... C'est là que je me demande s'il n'y a pas une grande farce, quoi.
Vous avez d'autant plus raison qu'on n'a pas encore parlé de la fraude fiscale.
C'est vrai.
De l'évasion fiscale.
Alors, si j'ai envie d'en parler avec l'acte
fiscaux. Alors, on va pas... C'est-à-dire des gisements considérables d'argent qui devrait nous éviter d'avoir le débat que nous avons sur nos seuls impôts. Sur
et du manque de loyauté de certaines entreprises françaises qui touchent du manque de loyauté de certaines entreprises françaises, de grands groupes français qui touchent des aides de l'État et qui délocalisent des emplois à l'étranger. On peut en parler.
Et
ça
du
aussi.
Grand laxisme du pouvoir.
On peut en parler aussi.
Parce que le manque
alors,
de loyauté,
qu'on parle de,
il est lié à ça.
De délocalisation d'emplois à l'étranger, mais on a vu. Le proportionnel et le progressif. On a vu la nature et l'origine des revenus. Mais maintenant, qui doit payer? Et dans ma question, il faut que je sois franc, il y a sûrement autre chose que ce que je vais dire, mais dans ma question de qui doit payer, c'est est-ce que tous les Français ne doivent-ils pas payer, quel que soit le lieu de leur résidence?
Mais tous payent déjà les impôts indirects comme
avec la TVA.
Tout à fait.
Tout se paye.
Mais si vous habitez Buenos Aires, Los Angeles ou Lisbonne, la TVA française,
est-ce que vous
elle
bénéficiez
vous beaucoup,
des services de votre pays? Est-ce que vous bénéficiez des autoroutes, des hôpitaux? Lorsque vous êtes un résident à l'étranger, si vous habitez les États-Unis, qui est un pays cher à mon voisin, je plaisante.
Pour la fiscalité.
Est-ce que vous avez possibilité d'avoir accès aux soins français avec
si
les tarifs?
Ça dépend si vous y habitez juste pour ne pas être taxé.
C'est ça qu'il faut regarder.
On a eu l'exemple il n'y a pas longtemps d'une vedette à laquelle on a fait des obsèques quasi nationales et 15 jours après, on a vu sa belle-mère qui nous expliquait qu'elle habitait à Los Angeles pour ne pas payer d'impôts, mais qu'elle venait se faire soigner en France. Bon. Et j'ajoute, moi j'ai quand même un autre exemple. Jadis, quand il y avait une conscription et une guerre, on donnait sa vie pour la patrie. Donc les gens qui sont à l'étranger ou sur le territoire national peuvent bien donner un peu de leur pognon pour parler présidentiel.
Oui. Vous voulez, je vais vous rappeler une étude qui vient de sortir au mois de janvier 2019, il y a un mois, qui a été commandée par le groupe socialiste du Parlement européen. Ce n'est vraiment pas un groupe révolutionnaire, loin de là. À des chercheurs, à des statisticiens britanniques, et qui vient de réévaluer l'ampleur de la fraude fiscale en Europe et en France. L'ampleur de la fraude fiscale en Europe, elle est estimée par ces chercheurs...
Vous parlez de fraude ou d'évasion ?
De fraude.
C'est un peu pareil, non ?
L'évasion, oui,
il y en a une qui est légale et l'autre
qui ne
l'est pas.
Je suis optimisation, évasion.
La fraude, elle est évaluée à entre 750 et 900 milliards d'euros.
En Europe.
Et la fraude fiscale en France, en Europe. Mmh, ouais. Et la fraude fiscale en France, alors qu'on parle toujours de 60 à 80 milliards, ces chercheurs britanniques l'évaluent à 120 milliards d'euros.
Qui ne serait
c'est
pas
une
payé.
Étude qui date de janvier 2019 et elle fait pratiquement le montant de l'impôt sur le revenu qui est de l'ordre de 140 à 150 milliards. Voilà où nous en sommes aujourd'hui et qu'il y a un renoncement total à aller chercher cet argent puisque on a diminué encore le nombre des contrôleurs fiscaux au prétexte qu'il faut faire des économies alors que les contrôleurs fiscaux qui auraient pour charge d'aller à la recherche de cette fraude fiscale, ils paieraient et largement au-delà leur salaire, il ne coûterait donc pas un seul centime à la France en allant chercher cet argent et en le rapatriant. Et je ne parle pas de l'optimisation fiscale, qui est une forme légale de frauder.
Je résiste pas à raconter l'anecdote en début du mois de janvier. Vous avez le maire de Rodez, Christian Tessèdre, qui, je sais pas si vous y étiez, au vœu de la mairie à l'amphithéâtre, commence son allocution en disant, vous savez, on commence l'année en France avec 80 milliards de dettes. Pour moi, c'était... alors. Peut-être. Et sous-entendu, on ne peut pas réclamer tout et n'importe quoi,
ça me paraît
pas
beaucoup.
Parce qu'on a des dettes.
Alors, c'est 2300.
Bon, c'est les propos du maire que je vous
rappelle. Question Tessèdre et les chiffres, c'est une longue histoire.
Ah oui, là,
je connais pas, je connais pas, mais de la fraude, sûrement.
La phrase, mais non, mais justement, c'est ça. La phrase, en tout cas, aurait été passionnante s'il avait complété sa phrase en disant que ça correspondait, en tout cas, moi, les chiffres que j'avais à cette époque-là, ça correspondait à la fraude fiscale de 80 milliards d'euros. Donc, ce qui nous plombe en France, c'est pas les andouilles de chômeurs comme moi, les fonctionnaires ou les migrants, etc. C'est la fraude des riches, quoi. C'est ça. Et c'est ça qui, l'austérité vient de la fraude légale ou illégale des riches.
Oui, oui. C'est pas l'unique chose qui nous plombe. Ce qui nous plombe aussi, c'est le manque d'énergie de notre économie, c'est le manque
d'idées
pour redynamiser.
Le PIB n'a jamais cessé d'augmenter. Jamais. La dette, c'est une fable. Oui, la dette publique française est une fable. Oui. Elle repose sur une supercherie mondiale.
Je
dis bien mondiale, c'est-à-dire que le capitalisme, comme tout le monde le sait, est mondialisé et financiarisé.
C'est indoutable.
Je vais vous dire pourquoi c'est une supercherie.
Bon. Stéphanie Berthémy.
Non, je parlais également de redynamiser l'économie avec les salaires. Tout à l'heure, Claude, vous disiez qu'on a baissé les charges sur les petits salaires. Mais ça me fait hurler. Faut pas baisser les charges sur les petits salaires. Faut inciter les entreprises à payer bien les gens. Moi, je taxerais le SMIC. C'est quelque chose qui m'a toujours révoltée. Ce n'est pas possible. On incite les chefs d'entreprise à garder les gens à des petits salaires. Et donc, dans des petites villes, à avoir du mal à joindre des deux bouts. Et peut-être avoir accès, j'espère pour eux, à des aides sociales qui vont plomber un peu plus. Non, c'est pas possible. Il faut donner la possibilité aux gens de gagner correctement leur vie. C'est une question de dignité de la personne aussi.
Mais baisser les charges, c'est baisser le salaire indirect.
Il faut peut-être aussi que le coût, parce qu'il faut pas oublier que en France, on paie le double de ce qu'on donne aux gens pour vivre.
Oui.
Hein, un employeur qui paie 1500,
avant
les abattements tout récents, soit un employeur qui paie 1500, il sort 3000.
Le coefficient de 1,6 et non pas de 2.
Non, il est de 2.
Non, je m'occupe de l'administratif et de la gestion de dans l'entreprise.
Il est de 1,8 à peu près.
Il est de 1,6.
1,8 si vous passez partout avec les prévoyances.
Il suffit de prendre un bulletin de salaire.
C'est beaucoup. Si vous payez quelqu'un. Si vous payez quelqu'un 2000 euros, ce qui commence à être
salaire
à peu près normal, vous allez payer 3800 en tout à la fin du mois avec l'URSSAF et tous les prélèvements obligatoires. Je vous garantis, moi je vois
passer. Est-ce que ça ne nous ramène pas à la bascule CSG et impôt sur le revenu?
Écoutez, si vous permettez, moi je pense que c'est peanuts. Ce qu'il faut, ce sont les paradis fiscaux. La fraude fiscale, l'optimisation fiscale, l'impôt sur le revenu, c'est peanuts. Il devrait être beaucoup plus important, puisque tout le monde devrait le payer, pour revenir à ce que vous disiez. Mais je ne vais pas m'arrêter à cela, parce que les gisements d'argent pour la France, ils se trouvent dans la fraude fiscale, dans les paradis fiscaux, dans l'optimisation fiscale. C'est là que ça se trouve, dans l'évasion fiscale. C'est là que ça se trouve, et elle est considérable.
Est-ce qu'on pourrait pas aussi
On n'aurait même pas à discuter de tout ce que nous discutions. Nous serions dans un pays de cocagne.
Et les niches, entre guillemets.
Alors voilà.
Les niches fiscales. Est-ce que ça n'est pas singulier de voir l'État construire des logements au rythme de ce que veulent ceux qui veulent défiscaliser? Si l'État veut construire des logements, il prend l'impôt et puis il construit des logements.
Monsieur Devezin.
Pas seulement pour les logements.
À partir du moment où on peut savoir quel est l'impact de ces niches fiscales, est-ce que ça crée des emplois, est-ce que ça maintient de l'emploi, est-ce que ça crée de la richesse, les Français veulent savoir. Je plagie Bourdin, mais les gens veulent savoir exactement. Par exemple, le crédit impôt recherche c'est une très bonne mesure à condition qu'il serve réellement à l'initiative, à la création de richesses, d'idées et d'emplois dans les entreprises. Et je pense que c'est ça en fait. Si vous dites aux gens, il y a une défiscalisation de temps pour une entreprise, mais qui a permis de créer tel produit qui va être un produit phare demain, qui va créer des milliers d'emplois, les gens vont dire ok. Par contre, c'est juste pour faire de la défiscalisation et des économies, ça doit être sanctionné. Et les entreprises qui bénéficient de l'argent de l'État, de l'argent public, doivent absolument maintenir leurs emplois en France.
Mais c'est pas le cas.
Mais non, c'est pas le cas. Voilà. On va pas parler des hein, et même des services administratifs qui sont délocalisés en Chine, en Inde, que sais-je encore.
C'est pas le cas parce qu'il y a du CICE qui est déversé en masse et il n'y a pas d'emploi créé. Et donc, on voit bien que ça marche pas. Mais il y a un autre sujet aussi qui rentre. Alors peut-être que j'avance un peu trop vite, mais il y a l'argent public, le gaspillage d'argent public et la distribution d'argent public. Et au niveau agricole, il y a la politique agricole commune qui est payée par nous tous. Hein. Donc c'est faut savoir que le consommateur, quand il va faire ses courses, il paye l'alimentation et il la repaye une seconde fois à travers des impôts. Eh bien, cet argent public qui est distribué est mal distribué. Et on en revient toujours au même. 80%, au niveau européen, 80% des aides agricoles vont à 20% des fermes. Oui. C'est révoltant, quoi, de voir ça. Et ici, dans nos régions, il y a un ratio qui est pas tout à fait le même, mais il y a quand même une inégalité forte aussi. Et en plus, quand on regarde les résultats, cette politique agricole vide les territoires. C'est-à-dire qu'on perd les paysans chaque année. Ici, entre les, il vient d'y avoir les élections aux chambres d'agriculture, entre les deux mandatures, on a perdu près de 1200 paysans encore. Voilà. Et donc, les fermes s'agrandissent. Enfin, il y a des déserts qui s'installent parce qu'il y a, ici, on est dans un département rural où il y a des pans entiers de notre département qui dépendent de l'agriculture et qui, c'est désertique. Il y a plus d'école, on connaît tous le problème, quoi. Voilà. Et donc, que de l'argent public serve à vider un territoire, mais c'est révoltant, quoi. Tout à fait. Et la Cour des comptes vient de sortir au mois de janvier, un rapport là-dessus. Et donc j'espère que les pouvoirs publics vont s'en servir parce qu'il est alarmant. Non seulement elle met à jour ces inégalités des aides qui sont versées, mais elle dit aussi qu'il n'y a aucun suivi des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'ils ne font pas d'évaluation sur ce qu'ils versent et sur le résultat, quoi. Et ils continuent comme ça, voilà. Donc ça c'est quelque chose. Alors bon, moi je connais mieux ce domaine de l'agriculture, c'est pour ça que je prends cet exemple, mais ça se passe aussi dans d'autres domaines, quoi.
Le CICE, qui est distribué sans contrepartie, sans contrôle. Si, on veut aller contrôler ce qui touche les aides sociales. Mais le CICE, 20 milliards multipliés par 2 cette année, 40 milliards, il est distribué comme ça, plutôt aux grandes entreprises, à des entreprises qui n'en ont pas besoin, alors que ça serait très utile pour les petites et moyennes entreprises, pour notamment faire face aux augmentations nécessaires, comme vous le disiez Stéphanie, vous avez raison, de salaire, et auxquelles, c'est vrai, dans l'état actuel des choses, il faut le reconnaître, les PME auraient du mal à faire face, eh bien, personne ne songe, au niveau du gouvernement, à réorienter ce CICE des grandes entreprises vers les PME pour leur permettre précisément de faire face. Non seulement on ne le fait pas, mais c'est quand en plus on leur donne l'argent sans en contrôler l'usage, sans exiger des créations d'emplois ou des investissements ou les deux. C'est ça qui est terrible. Par contre, Philippe, le Premier ministre, nous a balancé la semaine dernière une belle trouvaille. Il faut quand même aller voir comment nos pauvres bénéficiaires des aides sociales utilisent cet argent.
Est-ce que vous avez
on va les contrôler.
On se le demande.
Est-ce que vous avez réfléchi au prélèvement à la source? Prélèvement à la source. Donc l'État a demandé aux entreprises de faire son job, c'est-à-dire de prélever l'impôt à la source sur les salaires. Ça, il y a beaucoup d'avantages pour l'État. Déjà au niveau de la trésorerie, ça veut dire que tout le monde est mensualisé, enfin un maximum de personnes. Ça veut dire aussi qu'ils font des économies en matière d'agents administratifs, d'agents de fonctionnaires pour prélever l'impôt, puisque ce sont les entreprises via leur expert comptable qui prélèvent sur les bulletins de salaire l'impôt si le salarié voilà. Ça, je pense que également dans les caisses de l'État, ça va contribuer à renflouer et à faire de la trésorerie également. Parce qu'il attend plus 3 fois par an, c'était tous les trimestres, je crois, avant, ou 3 fois par an, il y avait.
Par tiers.
C'était par tiers, c'est ça. Moi, j'ai toujours été mensualisée. Donc, mais là, ça tombe tous les mois.
Mais pratiquement seulement sur les salaires ou les bénéfices non commerciaux.
C'est ça.
Ce qui veut dire que les bénéfices commerciaux, c'est pas évident.
Voilà.
Que les dividendes,
c'est ça.
Rien du tout.
C'est ça.
Les plus-values,
de poids, de
encore
mesure.
Moins.
Donc, classe moyenne qui sont encore impactées directement.
Très juste.
Eh oui. et avec une économie substantielle pour l'État. Je peux vous le garantir.
Alors, on a vu quel revenu, on a vu qui, et on a vu de quelle façon. Mais je vous sens chaud bouillant sur l'impôt sur la fortune. Ah bah oui, impôt sur la fortune, qui, je vous le rappelle, a été supprimé, maintenu sur la fortune immobilière. Malheur à vous,
si il
s'est construit un branchement d'autoroute et que votre pavillon a pris trois fois sa valeur.
Si vous avez acheté une maison de famille.
Si vous êtes agriculteur sur l'île de Ré.
C'est ça.
Mais donc, beaucoup de gens, alors on va vous écouter, sur l'impôt sur la fortune. Je vais donner mon point de vue tout de suite, comme ça sera fait.
Ouais, vous êtes citoyen aussi. Hein, ouais.
Je ne suis pas favorable, de la même façon que Stéphanie est hostile à l'impôt sur la succession, je ne suis pas favorable à l'impôt sur la fortune, sauf sur les très grosses fortunes. Quelqu'un qui possède 45 milliards, je pense, je parlais de la vigne tout à l'heure, si on lui en prend deux par an, ça repoussera largement. Et même quelqu'un qui possède seulement 100 millions, je pense qu'on peut lui prendre 1 million par an. Mais en dessous, personnellement, je n'y suis pas très favorable. Mais les très grosses fortunes, je pense qu'on pourrait taper assez lourdement sans leur porter préjudice et en ayant un peu de sens. Guillaume Albe.
Vous savez que sur les exemples que vous donnez de l'agriculteur qui a... Une exploitation sur l'île de Ré qui aurait pris.
Oui, parce
une
qu'on a maintenu la pension à fortune oui. immobilière.
Oui, mais ça, normalement, il y a les services des impôts qui sont là pour veiller aussi de la réalité de l'impôt et de la faisabilité aussi de ces impôts-là. Il y a des cas particuliers aussi, l'impôt peut, la justice fiscale peut intervenir sur ceux qui ont des maisons de famille aussi, c'est ça, selon les revenus qu'ils ont. Il peut y avoir des modérations, je ne suis pas un spécialiste.
La justice fiscale.
Fiscale, oui. C'est
optimiste, c'est un vieux. Hein.
Ah, ouais. Oh, toujours, voilà. Ouais. Mais il fut un temps, en tout cas, où ça pouvait, ça fonctionnait, voilà. Et je répète, je l'ai déjà dit en début d'émission, il ne faut pas comparer la classe moyenne qui paye ses impôts et qui a un sentiment d'injustice et les classes des ultra-riches qui râlent sur leurs impôts aussi alors qu'ils peuvent en payer. Et là aussi, je pense qu'on se rend compte tous de la violence aussi symbolique que ça peut être. Ça, le chômeur qui suis obligé de me justifier tous les mois que je recherche un travail et que je suis pas quelqu'un qui est affalé sur mon canapé. Et ça peut engendrer de la frustration, ça peut engendrer aussi, il y a un sentiment aussi que les riches, il y a une immunité des riches qui font ce qu'ils veulent, qui, ils font pas de la prison quand ils fraudent, ils passent pas en... Oui, voilà,
Cahuzac.
Ouais. Sauf au Japon.
Ah oui, voilà.
Ah oui, ça, au Japon.
Ça, on a donné l'exemple des États-Unis, ouais. On pourrait parler aussi peut-être du Japon, quoi. Mais voilà, ils passent pas en coopération immédiate avec un avocat commis d'office, ils ont le temps de se préparer, ils font rarement de la prison, etc. Donc là.
Sursis.
Ou sursis, ouais, ou des peines aménagées, tout ça, voilà. Mais,
alors, oui,
là, je dévie un peu du débat, mais voilà, c'est pourquoi il y a aussi de la violence actuellement, hein, bah, parce qu'il y en a une société violente et aussi, ouais. Et injuste aussi au niveau de l'impôt.
Alors là, la violence, vous me faites penser à quelque chose parce que nos élus sont sourds. Je suis un non-violent. Hein. Mais
aussi.
Il existe aussi la violence institutionnelle. Mmh. Et celle-là, on n'entend jamais parler par les élus. Et pourtant, je suis persuadé qu'elle est à la source de la violence physique ou verbale. Mmh. Et donc, c'est celle-là qu'il faut travailler. Et vous savez, quand on met des gens en situation de précarité... Et qui se retrouvent dans une situation dramatique et qui la vivent quotidiennement, on les pousse à la violence.
Mmh. Voilà.
Et donc, moi, ça, et là, les élus, les politiques, je les entends pas assez là-dessus, ils s'auto, comment dire, s'immunisent. Et disent, voilà, la violence physique, il faut l'arrêter. Mais ils ne parlent pas de son origine.
C'est très violent de frauder les impôts.
Oui,
parce qu'on refuse de la protection pour tous. On refuse l'éducation pour tous.
C'est
si ça, c'est pas violent, ça
je rappelle que la question...
Et là, je voudrais quand même, pareil, tordre le cou à deux mensonges qui nous sont bassinés, qui nous sont délivrés à longueur de colonnes, de journaux, de reportages télé, d'éditos et ainsi de suite, et de la part du gouvernement. L'impôt sur la fortune, il est dit que il ne faut pas le rétablir parce que il fait fuir les riches. Or, il apparaît que peu s'enfuient. Peu s'enfuient. 0,2% seulement ont fui.
Ils reviennent.
Et les recettes de l'ISF n'ont cessé d'augmenter. Ça veut dire quand même qu'ils sont restés. L'autre mensonge, c'est que du coup, parce qu'il existe, on rétablirait cet ISF d'un seul coup, la France ne serait plus attractive pour les capitaux étrangers, pour les entreprises étrangères désireuses de venir s'établir en France.
Et là, mais c'est les Français qui paient l'impôt sur la fortune.
Oui.
Certes, mais le fait qu'il y a un impôt sur la fortune aurait, d'après la propagande que l'on nous sert de manière régulière, un effet dissuasif sur l'attractivité, sur les entrepreneurs, les financiers étrangers pour venir s'établir en France. Et là, j'ai une petite perle que je voudrais quand même vous faire goûter particulièrement. C'est une citation qui n'est pas ancienne, qui est du 22 mars 2016, c'est-à-dire un moment où Macron n'était pas encore président de la République, où Madame Pénicaud n'était pas encore ministre du Travail, et qui déclarait, alors qu'elle était à la tête de Business France, le 22 mars 2016, dans le journal L'Usine Nouvelle, « La France devrait probablement rester le premier pays d'attractivité pour les investissements industriels en Europe. Je rappelle que le 22 mars 2016, l'impôt sur la fortune existait bel et bien. Et que néanmoins, la France, contrairement à ce qu'on nous dit, parole de Madame Pénicaud, devenue depuis ministre du Travail, déclarait que la France devrait rester encore, ce qui veut dire qu'elle l'était déjà, le premier pays d'attractivité des investissements industriels en Europe. Voilà les mensonges que l'on nous sert, alors que en 2016, on reconnaissait qu'en dépit de l'existence de cet ISF, nous étions un pays très attractif. Donc, tout ça n'est donc que mensonge.
Donc nous venons de parler de l'impôt. Si je suivais le questionnaire national, ça nous amènerait à parler de son utilisation. Mais moi, j'aimerais qu'on parle, parce que l'impôt, c'est sur la fortune ou sur le revenu, j'aimerais qu'on parle de la répartition des profits, de la façon dont ça s'organise entre salariés, actionnaires et à quel niveau. Je vois Stéphanie qui opine fortement du chef, donc c'est la répartition des profits, je suis heureux de l'entendre sur ce sujet.
Alors la répartition des profits, je pense qu'il faut distinguer dans le tissu économique français les grosses entreprises avec leur cortège d'actionnaires, de fonds de pension et de tout ce qui peut constituer un fonds d'action, et les PME-PMI. Alors moi je suis très attachée aux PME-PMI puisque c'est quelque chose que je connais. Je pense que n'importe quel patron, normalement constitué de PME-PMI, souhaite pouvoir redistribuer une partie de ses bénéfices auprès de ses salariés. Mais pour ça, il faut faire des bénéfices. Et pour faire des bénéfices, eh ben écoutez, il faut pouvoir travailler et vendre correctement ses prestations. En ce qui concerne les entreprises, les grosses entreprises et les problèmes des résultats financiers pour que les actions restent hautes. Je pense que là, par contre, il faut être plus sévère. Et il faut s'assurer que dans ces entreprises, en cas de profit, une partie soit réservée à la redistribution aux salariés, qui sont les principaux acteurs du travail et des fruits du travail. C'est un ensemble. Donc oui, je sais, je suis censée être celle qui suis à droite ce soir, mais je pense injuste que une partie de ces bénéfices ne soit pas réservée à une redistribution sociale auprès des salariés. Une partie, pas tout, d'accord, mais un minimum.
Guillaume Albe, sur la répartition des profits. Il est trop payé.
Des profits sont distribués en dividendes.
Ouais.
Est-ce que ça vous suffit comme données statistiques? 80% des profits sont distribués en dividendes.
Après, il est normal que des gens qui investissent de l'argent aient un retour sur investissement, mais pour autant, on ne doit pas priver le corps salarial d'une possibilité de vivre mieux et de profiter des fruits de leur travail.
On peut avoir des clés de répartition.
Exactement.
S'il reste des bénéfices, une partie aux salariés, puis quelque chose de raisonnable aux actionnaires. Voilà. S'il en reste encore, aller jusqu'à doubler grand maximum le salaire, et après, grand bien face aux actionnaires, ils paieront l'impôt sur le revenu.
Mais on n'est pas, on n'est pas contre les bénéfices.
Je sais bien.
Mais pas distribués en dividendes.
Pas entièrement réinvestir, en dividendes.
Créateur d'emplois, mais pas distribué en dividendes. Sachant que ces dividendes, pour l'essentiel, ils partent sur ce que les économistes appellent le marché secondaire, c'est-à-dire le marché spéculatif. La bourse.
Oui, oui.
Et le marché financier. Et donc, vous parliez, je pense que nous sommes en plein dans votre question, qui est d'ailleurs excellente. Les bénéfices, voilà où ils partent. On n'est pas contre les bénéfices dès lors qu'ils sont utiles à la collectivité.
Ils devraient aussi passer par la case impôt sur le revenu.
Ah ben. Et entre parenthèses, puisque vous reparlez des impôts sur le revenu, on a oublié quand même, on n'a parlé que de l'ISF. Mais il n'y a pas que l'ISF comme cadeau fiscal. Il y a l'exit tax. Il y a la flat tax.
Ah oui, oui.
Ce sont des cadeaux fiscaux monumentaux, ceux-là. Et alors, le pire de tout, c'est que l'exit tax, c'est un impôt sur la fraude, par le fait, pour permettre la fraude. On vous autorise à partir de France sans que vous n'ayez à encourir le moindre risque avec l'exit tax. La flat tax, c'est un autre problème.
Alors, il y a une autre question. Est-ce que vous avez parlé tous je vous l'avais demandé, de la répartition des profits, mais quand on a parlé de l'impôt sur la fortune, il y a un impôt sur la fortune qui a été, lui, établi. C'est l'impôt sur la fortune des pauvres, par la non-indexation des retraites, par la non-indexation du livret A. On s'en prend au patrimoine des pauvres.
Oui, tout à fait.
Complètement.
Rien à dire là-dessus.
C'est scandaleux.
Bon, vous avez tout dit.
Oui, vous avez tout dit.
Bon, et puis c'est, pour revenir, rebondir un peu sur ce que disait Stéphanie, c'est pas une question de gauche ou de droite à un moment donné, sur la répartition, aussi bien sur les impôts que sur la répartition des richesses. Si on veut maintenir quand même un peu la stabilité de notre pays et nos institutions, il va falloir soulever le couvercle un petit peu et redistribuer, quoi. Qu'on soit de gauche. Et il y a un gouvernement qui devra le faire un jour ou l'autre, qu'il soit de centre, de gauche ou de droite, un jour il va être obligé de le faire, si on veut rester unis, quoi.
Maintenant, il y a un point quand même. Alors, je veux pas être jouer les pessimistes, mais on a parlé pratiquement que d'argent ou d'économie, soit de redistribution d'impôts et tout ça, de bénéfices, de richesses en termes financiers. Mais aujourd'hui, on a devant nous un drame écologique qui se déroule et les fortunes financières, les richesses, les dividendes, les bourses et tout ça, ça peut pas se manger, se consommer. Et si plus rien pousse sur la planète, à quoi ça va servir? Donc aujourd'hui, il faut aussi intégrer maintenant qu'est-ce qu'on crée comme économie, qu'est-ce qu'on crée comme emploi. Il faut qu'on réfléchisse. C'est pas facile. Hein.
Ça sera le sujet.
Oui, oui, mais
c'est
lié, quoi.
L'écologie
c'est lié
peut être vecteur d'emploi.
Pardon.
L'écologie peut être vecteur d'emploi.
Oui, peut être vecteur d'emploi, mais aujourd'hui, vous savez, la question est très compliquée parce que.
C'est vrai, ça. Quand on achète des éoliennes aux pays scandinaves, c'est vecteur d'emploi pour ces derniers.
Oui, à la Chine, au mieux à la Chine. Faudra les recycler.
Il faut que l'être humain se calme.
La déconstruction n'est absolument pas prévue.
Bah, je sais bien.
Mais je restais sur la fiscalité.
Mais
on
pourrait pas être
sûr. Le thème qu'on nous a imparti.
Non, on va partir sur le glyphosate. Ça va.
Et donc, ce que je veux dire, moi, je vais terminer là-dessus. Ce que j'ai démontré à travers la distribution à 80% des profits en dividendes, que nous sommes là devant un des abus que moi j'appelle le coût du capital et que j'oppose à celui qu'on nous met toujours dans les dents, à nous, le petit peuple. Le coût du travail.
Ça veut bien que vous n'en avez plus.
Le coût du travail. Alors que, manifestement, c'est le coût du capital, c'est le capital qui nous coûte cher. Le travail, lui, ne coûte pas cher. Pour la bonne et simple raison. Que, pourquoi on parle de coût du travail? Pour les fonctionnaires, d'ailleurs, comme pour les salariés. Alors même que le salaire du salarié, qui représente effectivement, au moment où on le paye, un coût, va représenter une recette, ensuite, qui va entrer d'ailleurs dans le PIB, il va consommer, il va aller chez l'épicier, chez le boucher,
son salaire...
Ce serait
peut-être plus intéressant quand même s'il l'avait directement en salaire, plutôt qu'en...
C'est bien ce que je vous dis.
Robert,
salaire que le salarié touche, ça n'est pas un coût, puisque ce salaire, il ne va pas le placer sur un marché financier secondaire, il va le placer directement chez son boucher, chez son boulanger. Mais... Pourquoi on parle de coût du travail? Et je dis bien, aussi bien pour les salariés du privé que pour les fonctionnaires. Un fonctionnaire, ça ne coûte rien. Parce qu'un fonctionnaire, ça apporte par son travail, même s'il est paresseux, et ça apporte par sa consommation. Il ne coûte rien à un fonctionnaire comme un
Robert,
salarié du privé.
Robert, quand on parle du coût du travail, on parle aussi des charges inhérentes. Et le coût du travail est trop élevé quand vous voyez que des charges sociales ne suffisent plus à payer des médicaments à la sécu, et qu'en plus on doit prendre une mutuelle, qu'une entreprise finance en partie, et que le salarié finance en partie, puisque la mutuelle est aujourd'hui obligatoire. Là, ça commence à coûter cher.
Oui, moi,
il y a un truc qui va pas, là. C'est pas possible.
Il faut parler plutôt cotisation sociale, oui, que charge sociale.
Tout à fait.
Parce que...
À partir du moment où, et de plus en plus, c'est comme ça, là, on peut se poser la question sur le coût. Mais c'est, et vous avez raison dans le sens où c'est un investissement. Enfin, c'est, de salaire, c'est un investissement. On est tout à fait d'accord. Par contre, il y a des cotisations sociales qui, à mon avis, sont aujourd'hui mal réparties. Pourquoi on est arrivé à ce système où on doit avoir une mutuelle obligatoire pour pouvoir couvrir nos dépenses de santé? Et encore.
Parce qu'on a décidé de démanteler la sécurité sociale.
Mais bien sûr, je sais bien. Je sais bien. Et là, ça coûte cher.
Et bien sûr, c'est là, ça coûte cher. Le grand débat à Rodez concernant la fiscalité se termine. Ce sera sur la citoyenneté le 26 février à Villefranche, sur l'administration à Rodez le 5 mars et sur la transition écologique à Villefranche le 12 mars. Vous pourrez dans 5 minutes nous réécouter, vous avez le droit, c'est tellement plaisant, en podcast, et nous réécouter également dimanche, ça vaut la messe presque.
Ah oui.
Je confirme que c'est bien mieux.
C'est pas tout à fait ce qu'il a dit.
Non.